Bonjour, je suis la petite Blanc et je vous souhaite la bienvenue dans ce 61e épisode de Du Poil Sous les Bras. Et oui, 61 émissions déjà, et c'est pas fini. Et d'ailleurs, pour cette 7e saison de Nouvelles Radios Locales, on rejoint l'aventure et diffuse Du Poil Sous les Bras. Bienvenue à Radio Toucan, à Caen, Radio Grésivaudan, dans le Grésivaudan, Radio Fontaine, en Isère, Radio Calade, à Villefranche-sur-Saône, ou encore Radio Cause Commune, à Paris. Voilà, partout en France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg et même à Québec, vous pouvez trouver une radio associative ou écouter Du Poil Sous les Bras. Une émission radiophonique avec des invités badass, autrement dit hyper intéressante si jamais badass ça ne vous parle pas. Alors, elle n'est pas belle la vie? Oui, bon, non, elle n'est pas forcément belle. En tout cas, elle ne l'est pas pour tout le monde. Alors si, comme je vous le souhaite, vous avez un peu déconnecté cet été, eh bien cette émission va sonner comme un retour à la réalité. Une réalité qui n'est vraiment pas terrible pour certaines personnes. Alors je ne vous en dis pas plus, j'attends un peu avant de vous annoncer la couleur. En tout cas, je ne vous ai pas menti à propos d'invités badass, puisque les gens comme elle le sont.
Les gens comme moi, eh bien je déteste cette expression. Et je la déteste, parce que d'abord je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que c'est les gens comme moi ? Et surtout parce qu'elle me renvoie à l'autre expression, c'est les gens comme vous. Et comme là je sors d'avoir regardé un truc particulièrement immonde sur les réseaux sociaux, sur une voisine qui insulte quelqu'un en disant les gens comme vous, c'est exactement tout ce que je déteste. Donc je vais pas commencer, les gens comme moi détestent détestent ça.
Peut-être avez-vous reconnu son timbre de voix ou son style franc du collier. Alors moi qui suis sensible aux voix, eh bien j'ai toujours aimé ces voix un peu rocailleuses à la Jeanne Moreau, les voix écorchées, des voix qui disent beaucoup d'une personnalité. Et de la personnalité, eh bien il faut que vous en ayez quand vous représentez l'autorité administrative chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfert des personnes privées de liberté.
Bonjour, je m'appelle Dominique Simoneau, je suis la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est si vous comprenez pas. Avant j'étais journaliste, mais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est la chose la mieux que j'ai fait de toute ma vie entière, professionnelle.
Je suis ravie d'ouvrir cette 7e saison avec Dominique Simoneau. D'abord parce que c'est une personnalité attachante qui fait, je le crois, un bon travail en tant que contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, tout comme l'ont fait avant elle Jean-Marie Delarue et Adeline Hazan. Et puis parce que le sujet du jour, c'est le respect des droits fondamentaux dans les endroits de France où probablement ils sont le moins respectés. Alors la tâche qui incombe à la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et à son équipe, eh bien c'est d'amener l'État et les institutions qu'il représente à respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes en tout lieu. Leur rôle, c'est de s'assurer que les gens sont traités avec dignité et, dans le cas contraire, de le signaler et d'essayer de trouver des solutions, peut-être, elle nous le dira. Le respect des droits fondamentaux, c'est pas juste une idée en l'air. Si on accepte de bafouer ces droits pour certains, eh bien petit à petit, la gangrène de l'indignité fera son chemin ailleurs dans la société. Traiter chacun et chacune avec respect, c'est un enjeu pour notre humanité. C'est pas rien, c'est même beaucoup ce dont on va parler dans Du Poil Sous les Bras.
La petite Blanc dans Du Poil Sous les Bras.
J'ai rencontré Dominique Simoneau en juin 2024 dans son bureau parisien. J'ai bien aimé notre rencontre, j'ai senti quelqu'un d'à la fois sur ses gardes et en même temps accessible dans l'échange. Alors déjà, je lui ai demandé ce que c'était que ce rôle de contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour tout le monde.
C'est un métier, on est une autorité indépendante. J'ai été nommée par le président de la République, mais ma nomination devait passer devant le Parlement pour qu'elle soit validée. Donc les parlementaires ont voté en ma faveur. J'avoue, à une très courte majorité, comme m'a fait remarquer un des votants avec qui j'ai repris le métro, c'était pas stalinien, hein, non, ça c'est sûr. Non. Il faut dire, je suis arrivée ici avec un passé de journaliste. J'étais journaliste au Canard Enchaîné, donc je comprends que plein de parlementaires ne devaient pas m'aimer trop ou se méfier certainement. Ou peut-être j'ai pas été géniale pendant mes auditions, hein, je ne sais pas. Toujours est-il que mon métier, il consiste maintenant à défendre les droits fondamentaux de tous les gens que tout le monde déteste. C'est un peu comme ça que je peux le résumer. Parce que je vais en prison voir les détenus. Enfin, je, l'équipe et moi, enfin tout le monde ici, en prison voir les détenus, dans les hôpitaux psychiatriques voir les malades mentaux en soins sans consentement, c'est-à-dire dans les services fermés, voir dans les centres éducatifs fermés les enfants délinquants. Tout le monde en a très peur. Je vais dans les commissariats voir les gardés à vue. Je vais dans les centres de rétention voir les étrangers sous OQTF et qui sont là en attendant d'être expulsés dans leur pays, ce qui arrive, comme vous le savez, peut-être très rarement, puisqu'on est à moins de 10% d'exécution des OQTF. OQTF, je sais que tout le monde connaît maintenant, grâce à une certaine presse, tout le monde connaît les OQTF. Il y a aussi, on assiste aussi au retour forcé des étrangers et dans leur pays quand ça arrive. Et puis on est aussi habilité, oui, les camions cellulaires sont aussi des lieux de privation de liberté. Et moi personnellement, j'ai fait des trajets dans ces camions cellulaires pour voir ce que ça donnait. Alors, à l'aller avec les détenus qui allaient en prison, je me rendais avec eux à la prison. Et au retour dans la cage.
Évidemment, peut-être, comme moi je me le suis dit, vous vous dites, mais quel intérêt quand le fourgon est vide, qu'elle soit dedans ? Eh bien, il y a un intérêt, figurez-vous, parce que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, elle est aussi chargée, je crois, de vérifier le respect des droits du côté du personnel pénitentiaire, par exemple. Donc, faire des trajets avec eux, ça a du sens.
Enfin non, je ne vérifie pas les droits fondamentaux du personnel, mais je sais, et mes prédécesseurs aussi, on sait tous que les conditions de travail du personnel dans ces lieux-là, de ces conditions dépendent beaucoup la manière dont ils vont traiter les gens qui sont sous leur garde ou qui soignent. Par exemple, la vie pour les surveillants de prison actuellement, elle est infernale dans les maisons d'arrêt. Quand je dis infernale, je pèse mes mots, c'est épouvantable. Vous pouvez pas savoir la détresse, je pèse mes mots, hein, des surveillants qui tous les soirs vont se coucher, qui travaillent dans des maisons d'arrêt qui sont surpeuplées parfois jusqu'à 245%, avec des matelas au sol, des punaises de lit, des vermines, des rats. Et ces surveillants que j'ai bien connus, parce que moi j'ai été aussi éducatrice à l'administration pénitentiaire, donc je connais le métier, bien que c'était pas le même, mais je connais. Ils rêvaient depuis toujours d'être autre chose que ce qu'ils appellent des porte-clés. Ouvrir et fermer des portes de cellules. Eh bien, ils voulaient être surveillants acteurs, aider à la réinsertion, ce que veut la loi. La prison est là pour punir, mais pour réinsérer aussi. Or là, on a totalement biffé le côté réinsertion. Et les surveillants ne sont plus que des porte-clés qui courent toute la journée. Et tous les soirs, ils se couchent en se disant « J'ai fait un boulot de merde, j'ai mal fait mon boulot. » Vous savez qu'à la longue, si je m'adresse à vous, à tous les... Je sais pas, il y a des gens qui travaillent, je suis sûre qu'ils écoutent votre émission, et qui se disent « Bah ouais, si je rentrais tous les soirs chez moi en me disant « J'ai fait de la merde, j'ai mal fait mon boulot », ça pète le casque. » Et on a fait analyser cette situation pour les détenus et pour les surveillants par les médecins qui travaillent en prison et qui nous ont parlé d'une mise en danger psychique, parce qu'il y avait des forts risques de décompensation psychique pour les surveillants, pour les détenus bien sûr, ça va sans dire, mais pour les surveillants aussi. L'autre exemple le plus criant d'abandon, parce que moi j'appelle ça un abandon de l'État, parce que c'est quand même honteux de laisser dans cet État. C'est ce que je réponds à certains élus quand ils m'interrogent sur les conclusions de nos rapports. Je dis, mais monsieur, madame, si vous en avez rien à faire des détenus, ben, souciez-vous au moins des surveillants, écoutez ce qu'ils ont à dire. Ben là, c'est pour les soignants. En psychiatrie, la psychiatrie est totalement délitée en France. Plus personne ne veut travailler dans le service public. C'est la fuite. Nous, on traverse des services où il manque 30% de soignants, 40%. Et ce qui veut dire que ça a de nombreuses répercussions. Par exemple, dans certains services, par commodité, parce qu'il n'y a pas assez de monde, on va placer des gens sous contention. La contention, c'est attacher quelqu'un à une chaise ou à un lit par 5 points. C'est la pire atteinte à la liberté qui soit. On ne peut pas bouger. On reçoit des lettres de patients qui ont été contentionnés pendant des heures et des heures, qui nous racontent comment ils ont fait pour pisser, par exemple, en se tortillant, parce qu'ils étaient trop humiliés. Puis s'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Voilà, ils font tout dans le lit.
Le délabrement du secteur psychiatrique en France questionne. Concernant les établissements de santé, outre les unités avec des personnes hospitalisées sans consentement, l'équipe chargée du contrôle des lieux de privation de liberté a aussi accès aux chambres sécurisées des hôpitaux, aux unités pour malades difficiles, aux unités médico-judiciaires. Et puis on a cité aussi les établissements pénitentiaires, maisons d'arrêt, centrales, centres de détention, etc., et les centres de rétention douanière ou administrative des étrangers. Eh bien, citons aussi les zones d'attente dans les ports, les aéroports, les dépôts ou les geôles situés dans les tribunaux. Voilà, comme ça, vous avez en tête tous ces lieux dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, puisque, par définition, ils ne sont pas publics. Puis en plus, ils font souvent l'objet de législations particulières. Et puis surtout, soyons honnêtes, on n'a pas forcément envie de s'y intéresser. Alors en écoutant Dominique Simoneau, on comprend vite que lors des contrôles, elle fait face à des situations d'indignité flagrantes. Et au fil des ans, on n'a pas l'impression que ça s'améliore vraiment. Je lui ai demandé si elle n'était pas un peu désespérée face à ces situations qu'elle rencontre, et surtout au fait que ces situations perdurent, voire empirent.
Alors je vais vous dire, ce serait désespérant si lors de nos passages, rien ne s'arrangeait. Mais des choses s'arrangent quand on passe. Des choses qui vont vous paraître dérisoires. Hein. Par exemple, là, ça pourrait m'énerver, ça m'énerve. Je suis en colère, mais la colère d'abord est un excellent moteur. Ensuite, j'ai un peu de chance parce que je connais plein de journalistes, donc vu mon ancien métier, donc volontiers ils m'interrogent, alors ça, le message passe. Ensuite, on a mis sur pied une sorte d'alliance avec des associations et les avocats qui portent nos rapports devant les tribunaux administratifs pour faire condamner l'État, pour l'État justement dans lequel ils laissent les prisons. On l'a fait beaucoup sur les prisons. Ça marche de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de condamnations. Je parle même pas des condamnations de la Cour européenne. Je parle des condamnations de tribunaux administratifs nationaux. Ensuite, je pense que ces conditions indignes, on peut les répéter. Par exemple, il n'y a pas de raison, en psychiatrie, on peut faire porter des dossiers sur la psychiatrie. Et d'ailleurs, ça commence. Il y a des avocats audacieux et ils se basent sur nos recommandations. J'ai aussi de l'espoir parce qu'on a formé un groupe de travail ici au contrôle général, avec les syndicats pénitentiaires, les syndicats de magistrats, les syndicats d'avocats, syndicats de médecins et puis les associations qui travaillent en prison. On s'est réunis, on en a tiré. Je suis fière de ça. Je suis fière parce que j'ai vu l'Observatoire international des prisons discuter avec des syndicats pénitentiaires. Vous savez, c'était pas évident au départ. Et j'ai vu des gens qui pensaient pas du tout pareil. Finalement, on a tous convergé vers la même chose. Ça ne peut pas durer dans les prisons. Il faut mettre en place une régulation carcérale. La régulation carcérale, c'est-à-dire, comme au temps du Covid, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des ordonnances, les gens sont sortis. Des détenus sont sortis. À 15 jours, à un mois de leur fin de peine, je pense pas que ce soit dramatique, hein. Et des sorties encadrées par les services pénitentiaires. Je pense que là, on est dans un... Les prisons sont dans... Vous savez, c'est un état dangereux. Il y aura un drame. Il y a eu le drame d'Incarville. Alors, vous savez, l'évasion de Mohamed Amra. Mais vous savez, ça n'est pas déconnecté tout à fait de la surpopulation. Mais, bah, c'est que les surveillants d'Evreux, qui auraient dû l'amener au tribunal, étaient débordés, donc ils ont donné ils ont refilé la charge de, enfin le transport à leurs collègues de Caen. Déjà, première anomalie. Deuxième anomalie, le fait que nul n'ait su à temps que cette personne était beaucoup plus dangereuse que ce qu'on pensait. Ça se réglera par l'enquête judiciaire. Bon, je continue.
Alors avant de laisser Dominique Simoneau continuer, une précision à propos de Mohamed Amra. Il a été mis en examen pour plusieurs crimes, il s'est évadé en mai 2024 et lors de son évasion, deux agents pénitentiaires ont été tués. Et à l'heure où je vous parle, il est toujours à ma connaissance une des personnes les plus recherchées de France. Voilà, fin de la parenthèse. Alors Dominique Simoneau nous expliquait à l'instant que ce qui avance, c'est que l'État est de plus en plus condamné sur des affaires individuelles et que ça fait bouger un peu les choses, au moins pour les personnes concernées, hein, puisque l'État est condamné pour des cas précis, individualisés. Au niveau collectif, au niveau de la société, j'ai l'impression que ça ne change pas beaucoup la donne, et notamment pour les deux énormes problèmes que Dominique Simoneau a identifiés comme étant
la surpopulation carcérale pour les prisons et le manque de soignants en psychiatrie. Ces deux, alors, en psychiatrie, nous, ça fait des, je sais pas combien de temps qu'on demande qu'on, un grand plan national pour la psy, mais enfin, on n'est pas les seuls. Tous les psys la demandent. Jusque-là, rien du tout. Il paraît que c'est pas de la faute du gouvernement si plus personne parmi les étudiants ne choisit la psychiatrie ou que c'est choisi comme un truc en dernier. Si, moi, je crois que c'est un peu de la faute de tout le monde, hein. Et quant à la surpopulation, on m'a bassiné depuis 3 ans en m'expliquant que on ne pouvait pas faire ce que je disais parce que ça ferait monter le Front National. Bah écoutez, je crois que voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus parce que je pense que tout le monde voit que le Front National n'avait pas besoin de ça. Je crois que nos concitoyens, on les prend pour des idiots à ne pas leur tenir des discours de vérité. Et je crois que la politique mourra un jour, et est en train de mourir d'ailleurs, de tous les mensonges qui sont racontés, de tous les bords possibles d'ailleurs. Vous serez plus riche, vous payerez moins d'impôts, vous allez tous avoir du boulot, etc., etc. Tous ces trucs, au lieu de leur dire, écoutez, voilà, oui, il y a un problème avec la sécurité, ou alors les problèmes sur la sécurité, les promesses. Vous verrez, avec nous, il n'y aura plus, par exemple, d'étrangers frappés d'OQTF, on va tous les renvoyer dans leur pays. Mais les gens qui promettent ça, les partis, les politiques qui promettent ça, est-ce qu'ils ignorent vraiment que le gouvernement, là, il se démène comme des dingues pour pouvoir renvoyer les gens dans leur pays? Mais les pays d'accueil, les pays d'origine, ils sont pas dingues? Pourquoi voulez-vous qu'ils reprennent des gens qui sortent de prison? Ou des chômeurs? Ou des craqueux? Pourquoi voulez-vous? Ils les reprennent pas, ils les reconnaissent pas, donc ils ne repartent pas. C'est pas que je suis pour qu'ils repartent, j'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que promettre ça est une vaine promesse. Ou alors, par derrière, on va faire comme on le fait parfois, payer pour chaque étranger renvoyé.
Y a-t-il longtemps que tu as vu chose? Il a pris un sacré coup de vieux. Il est farci de coupe rose. D'après moi, il picole un peu. Il faut dire qu'il a des excuses. Sa femme, il faut se la taper. Madame, elle a la science infuse. Mais je ne veux pas l'accabler avec un mari de la sorte, toujours à faire le joli cœur. Moi, j'aurais déjà pris la porte. Il faut croire que ça lui fait peur. Remarque, elle me fait de la peine, car franchement, c'est une belle humaine. Mais 5 minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça nous fait. En 5 minutes, on exécute tous les amis, les faux, les vrais. Et même si ça vous rebute, ne dites pas que ça vous déplaît. Ça nous chahute, ça se discute, mais on est des brutes. Ma voisine, la grande bique, tu sais, celle avec le scooter. Je t'assure, elle est dramatique. Paraît qu'elle se shoot à l'éther. Oui, c'est depuis sa tentative. C'est depuis que ce gros connard lui a flanqué dans les gencives qu'elle était pas bonne au plumard. Le salaud, mais faut reconnaître qu'il avait peut-être pas tort. Elle n'ose pas l'envoyer paître. Elle veut le remplacer d'abord, le pauvre. Moi, je l'aime bien. Finalement, c'est un bel humain. Mais 5 minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça nous fait. En 5 minutes, on exécute tous les amis, les faux, les vrais. Et même si ça vous rebute, Ne dites pas que ça vous déplaît, ça nous chahute, ça se discute, mais on est des brutes. J'avais invité les trucs-muches, ils m'ont posé un beau lapin. Leurs mots m'avaient la coqueluche, non quel fléau ce gamin. Paraît que machin est au chômage, sa boîte a fait le gros plongeon. C'est pas très facile à son âge, avec Bobonne en dépression. Elle, elle me fait toujours la gueule, son mec et moi, oh, c'est pas nouveau. J'étais sûrement pas la seule, et pas de quoi grimper au rideau. Remarque bien, je lui pardonne, après tout c'est une belle personne. Mais cinq minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça nous fait. En cinq minutes, on exécute tous les amis, les faux, les vrais. Et même si ça vous rebute, ne dites pas que ça vous déplaît. Ça nous chahute, ça se discute, mais on est des brutes. Au fait, que devient une telle ? Toujours aussi mal fagotée, elle pourrait être presque belle si elle savait mieux s'arranger. Mais il n'y a qu'à regarder sa mère, on voit bien comme elle deviendra. Jules a quitté sa poissonnière pour une chanteuse d'opéra. Ça va changer un peu l'ambiance. La sœur de truc s'est fait lifter, ça se voit pas. Bob se fiance, c'est pas ça qui va l'arranger. Moi, je ne lui reproche rien, non, c'est vrai, c'est quelqu'un de bien. Mais cinq minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça nous fait. En cinq minutes, on exécute tous les amis, les faux, les vrais. Et même si ça vous rebute, ne dites pas que ça vous déplaît. Ça nous chahute, ça se discute, mais on est des brutes. Peut-être que ça vous horripile, pas très sympa tous ces ragots. Mais j'ai la conscience tranquille dès que j'aurai tourné le dos. C'est moi qui deviendrai la cible de leurs folles insinuations. Elle chante encore, c'est pas possible, mais quel âge ça lui fait donc. Il paraît qu'elle est pas facile, qu'elle aime pas tellement les marmots, que les bons hommes se pensent en style, et qu'elle flambe dans les casinos. Mais c'est pas grave qu'on la débine, faut dire que c'est une bonne copine. Mais cinq minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça leur fait. En cinq minutes, ils m'exécutent, que ça soit faux, que ça soit vrai. Et même s'ils attendent ma chute, jamais je les contenterai. Ce qu'on m'impute, je le réfute, ouais. Je suis pas une brute. Moi.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Dominique Simonneau dénonce les mensonges de l'État, des politiques qui font croire qu'on va régler des problèmes en construisant des prisons. Mais ouvrir plus de places de prison, on a déjà vu ce que ça donne. Plus on construit des prisons, plus on les remplit et les situations d'indignité perdurent. Donc ça ne va rien régler du tout.
De toute façon là, une promesse a été faite en 2017. 15 000 places de prison. Très bien, moi, j'étais journaliste à l'époque, je me suis permis quelques papiers pour dire que, alors là, ça m'étonnerait énormément, vu le temps que ça prend de construire une prison. On a été beaucoup, enfin, d'ailleurs, il y a un rapport remarquable d'un député LR qui montre à quel point c'est des promesses en l'air, mais bon, passons, c'est des promesses en l'air, pourquoi ? Parce que personne ne veut de prison près de chez soi, et surtout, ça prend des années et des années. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a inauguré en décembre 2021 la prison de Mulhouse-Lutterbach, déjà pleine à 200%, hein, pour dire, qui avait été annoncée par Michel Alliot-Marie, garde des Sceaux, en 2008. Donc, pourquoi on tient ce discours de « vous en faites pas, il y aura de la sécurité, parce qu'il y aura des places de prison » Promesse on ne peut pas tenir ce nombre de places de production. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il doit y avoir 4100 places sorties de terre. On est très loin des 15 000 et elles seront jamais opérationnelles. C'est faux en 2027. C'est bidon. Et au lieu de dire, écoutez, en Allemagne, regardez, ils ont 20 millions d'habitants de plus que nous. Mais ils ont 20 000 détenus de moins. Pourquoi ? Parce qu'ils croient aux peines hors les murs, parce que pour eux, la prison n'est pas la reine des peines, parce que, alors ils font payer des amendes, d'accord ? Bah, écoutez, ils punissent les gens comme ils veulent. Bah, une amende, après tout, je préférerais payer une amende que de passer une demi-journée dans, dans les cellules que je visite. Et quand j'ai demandé aux Allemands, mais comment vous faites ? Ils m'ont dit, chez nous, c'est pas un sujet politique. Nous, on tient des discours pragmatiques. Et selon lesquels, vu ce qu'on a fait par notre passé, le respect de la dignité humaine est en tête de notre constitution, ça guide nos rapports avec les détenus. D'ailleurs, il n'est même pas question qu'on ait des prisons comme les vôtres. J'ai visité les prisons allemandes. C'est pas que je vais m'extasier sur une prison. Mais franchement, ils sont un par cellule. 70% des détenus travaillent contre 28% chez nous. Et les 30% en Allemagne qui ne travaillent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas. Donc, c'est nos voisins. Il ne faut pas venir me raconter que c'est... Et j'aimerais que les discours politiques disent, écoutez, tout la prison, c'est assez criminogène. Il y a d'autres façons de punir. Il y a d'autres façons. Et même la prison, si elle était moins pleine, s'il y avait un détenu par cellule, ce qui est la loi, hein, qu'on repousse sans arrêt à coup de moratoire, eh bien peut-être tout le monde pourrait avoir accès à l'enseignement, au travail, à l'art, au sport, aux activités que promet la prison pour remettre les gens dans les rails, pour leur réapprendre à vivre en société. Vous croyez qu'on apprend à vivre en société à trois par cellule, dévorés par les punaises de lit comme j'ai vu? Mais on fait que s'énerver, enfermé 22 heures sur 24 là-dedans. À trois jeunes hommes, c'est-à-dire plein de vie plutôt. Mais c'est... Je vous jure, vous voyez ça, vous sortez pas pareil. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je reproche aux magistrats de pas assez aller en prison, voir les cellules où ils envoient du monde. Je pense que leur regard, leur façon d'envoyer des gens en prison, ils en enverraient un peu moins, je crois.
Peut-être que si tout le monde allait en prison, voir comment ça se passe, voir les conditions dégradantes d'enfermement, eh bien ça changerait le regard des gens sur la prison. Mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas voir ce qui s'y passe. Les gens enfermés sont globalement abandonnés. Et ça paraît difficile aujourd'hui d'inverser la tendance.
Je sais et j'arrive pas à m'y faire. Dans les années 1970, années militantes, comme aujourd'hui d'ailleurs, ce sont des années militantes, il y avait des groupes d'intellectuels un peu partout qui avaient pris la prison qui avaient pris la prison comme centre d'intérêt et qui diffusaient une parole, des luttes. Ils étaient vraiment acharnés à ce que la prison devienne autre chose. Moi, je me souviens des discours de... Aujourd'hui, Et je le sais parce que j'en ai parlé avec mes filleules. J'étais la marraine de la promotion des étudiants, des élèves avocats, ici. Et on en a souvent parlé. Et je leur ai dit, mais battez-vous pour ça, parce que c'est quand même moche d'avoir vu disparaître cette forme de militantisme qui était très belle, parce que elle touchait des gens que les gens n'aiment pas, et ils avaient réussi à faire passer quelque chose. Quelqu'un d'autre qui a réussi à faire passer un message, c'est le docteur Véronique Vasseur, dans son livre sur la prison de la santé dans les années 2000. Dans la foulée de ce livre qui a fait scandale, il y a eu des rapports d'enquête parlementaire qui disaient le rapport du Sénat, c'était prison, l'humiliation de la République. Et à l'époque, il y a eu un mouvement de l'opinion en faveur des prisonniers, parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'était immonde la façon dont ils vivaient, et que c'était pas possible qu'ils sortent de la meilleure, comme le voulait Robert Badinter, comme le veut la loi, qu'on en sorte meilleur. Or, on en sort pire, et c'est vrai que c'est délaissé comme terrain de jeu. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous énerver, mais ça m'est égal. Je trouve que, par exemple, les luttes féministes actuelles sont avides de répression, c'est pas quelque chose qui me plaît. Quand il n'y a pas de prison pour machin ou truc, c'est qu'il n'y a pas eu de peine. C'est-à-dire, c'est tous les trucs les plus bougeados et les plus populistes que j'entends parfois de la part de femmes que pourtant j'admire ou que j'aimerais... Non, que j'aimerais admirer, mais que je n'admire pas à cause de ça. Et de même, je trouve que... Ça, c'est ce que j'ai appris à mes filleuls élèves. Je te crois sur les murs, adressé aux victimes. C'est très bien, je comprends le fond de cette réflexion. Mais en fait, moi, ça ne me va pas, je te crois. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui mentent, vous savez, je vais peut-être vous l'apprendre. Il y a des gens qui mentent. Et moi, je ne peux pas me fier. Toute mon éducation philosophique, ou mon éducation, très peu d'éducation philosophique, mais mon éducation morale, mentale, mes études de droit, tout ce que j'ai vu dans mes différents métiers, me disent attention, attention à pas verser là-dedans, parce que ça devient pour moi, en tout cas pour moi, hein, ça n'est pas possible d'accréditer le fait que dès que quelqu'un se dit victime et porte des accusations, je peux pas me faire à l'idée qu'on se dise ah ben c'est vrai, c'est forcément vrai. Je sais très bien d'où ça part, et je sais très bien que c'est une façon aussi de dire aux filles qu'on n'a pas cru, vas-y, maintenant on est là. Mais il faut de la justice, et il faut pas de journaux qui se jettent, enfin parfois, sur des histoires. Moi, j'ai été soignée dans ma carrière de journaliste par deux affaires effrayantes. L'une, c'est Outreau, et l'autre, c'est Baudis. On a été nuls à chier, je peux le dire. C'est une de mes hontes journalistique.
Alors Dominique Simoneau a été nommé en 2020 au poste de contrôleuse générale des lieux de privation de liberté pour une durée de 5 ans, et pendant ces 5 ans, elle ne peut pas être démise. Et cette autorité indépendante qu'elle représente, qu'elle dirige, produit des rapports, en l'occurrence souvent à charge contre les défaillances de l'État. Elle produit des rapports intermédiaires aussi, des avis, et puis un rapport annuel sur l'état des lieux de privation de liberté. Et le ton est en général sans appel. Cette année, par exemple, il y est écrit... Je cite, il est difficile de défendre les droits de ceux qu'une société n'aime pas, ne veut pas regarder et se moque bien des mauvais traitements qui leur sont infligés. Difficile de constater que cette indifférence vient encourager l'inertie de l'État. Difficile également de devoir répéter qu'il est inconcevable, en France, d'abandonner à un sort souvent infect les captifs et avec eux ceux chargés de les garder, de les surveiller, de les soigner, de les accompagner. Difficile enfin de voir balayer l'évidence selon laquelle la manière dont ils sont traités rejaillit forcément sur leur destin à leur sortie et forcément sur nous et notre société tout entière. C'est l'introduction du rapport annuel 2023 de Dominique Simoneau. Alors je me suis demandé pourquoi Macron l'avait choisie elle, en tout cas pourquoi il l'avait proposée, puisque le président propose une personnalité aux députés qui valide, comme Dominique Simoneau nous le disait en début de cette émission. Alors je me suis dit qu'elle-même, elle avait dû aussi se demander, mais pourquoi moi ?
J'ai plusieurs explications, parce que j'ai toujours... mal compris pourquoi j'étais là. Sauf que je m'y retrouve totalement et que j'y suis vraiment... S'il y a quelque chose dont je serais reconnaissante éternellement à ce président de la République et à son garde des Sceaux, parce qu'autrement on est d'accord sur rien, c'est ça. Merci de m'avoir nommé, ça je dois dire. Pour le reste, je les ai prévenus tous les deux. J'ai dit, mais pourquoi vous me nommez ? Vous n'aurez que des emmerdes avec moi. Je leur ai dit exactement dans ces termes. J'ai dit, je ne fermerai jamais ma gueule. Je dirai tout ce qui ne va pas. On va s'engueuler tout le temps. Ça va être épouvantable. Alors, c'est un peu épouvantable pour moi parce que c'est pas très agréable. Tant pis, hein, je suis là. Moi, j'ai pas été nommée pour plaire. Ni au gouvernement, ni au garde des Sceaux, ni au président de la République, ni à personne. Même pas aux détenus, mais à personne. Donc j'estime que mon travail, c'est de dénoncer ce qui ne va pas, de dire ce qui ne va pas, et je me tairai pas, voilà. Alors, évidemment, ça a un côté frustrant, parce que tout ne va pas vite. Faut s'y faire, hein. Faut pas être vaniteux non plus. Mais je pense que le discours ici, il fait avancer les choses quand même dans l'esprit des gens. C'est ce que j'espère. Ce sera plus lent que prévu. Quand je suis arrivée, une de mes collègues nouvelle m'a dit, tu sais, ne sois pas surprise ici, c'est la tectonique des plaques, ça avance, mais c'est lent. N'attends pas trop, ne sois pas impatiente. Et c'est vrai que moi, je suis très impatiente, mais je me dis que quand même, j'espère que ça diffusera, que ce groupe de travail sur lequel je compte beaucoup diffusera autour de lui, que on est pas mal quand même à se parler maintenant.
C'est, je crois, une des belles avancées, effectivement, du travail de la Contrôleuse Générale des lieux de privation de liberté, d'arriver à faire travailler ensemble les secteurs concernés par ces lieux de privation et d'écouter chacun. Et il y a un secteur, justement, dont on n'a pas tant parlé, mais qui la touche particulièrement, c'est la situation des enfants enfermés.
Voyez, d'ailleurs, vous dites enfant, ça me fait plaisir, je dis enfant, et je dis pas mineur, parce que je ne peux plus supporter ce terme, mineur. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas quand, c'était l'année dernière, je crois que j'avais écrit « Personne dirait, j'emmène mon mineur au collège ». Hein ? Non, j'emmène mon gamin. Mais eux, alors, les mineurs délinquants, sans papier, les mineurs, ça peut être que des méchants, les mineurs fous. Ça s'allume quand on dit mineur, la lumière clignote, danger, danger. C'est horrible. Donc déjà, premièrement, je ne dis plus mineur, puisque d'ailleurs on est dans une société où on se sert de tellement de périphrases pour dire les choses que plus personne n'y comprend rien. Je pourrais dire aussi personne concernée. Si vous avez remarqué, bon, je fais une incise, mais personne concernée, c'est vous, c'est moi, c'est le détenu que j'invite, c'est n'importe qui, personne, c'est n'importe quoi, la personne concernée. Donc, les enfants... je pense, ça commence à l'aide sociale à l'enfance. Vu le nombre de gamins que moi je récupère, que je vois dans les centres éducatifs fermés, où là ils ont commencé déjà un peu de la délinquance et ils ont fait un truc suffisamment grave pour se retrouver en centre éducatif fermé. Bon. Énormément d'entre eux viennent de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est des gamins qui n'ont pas eu de chance au départ. Hein. Alors on les a retirés à des familles maltraitantes pour les coller dans des foyers non moins maltraitants. Hein. Et pas contrôlé du tout. Ensuite, il n'y a pas d'études sur ces gosses-là. On ne sait pas d'où ils viennent, quelle a été leur vie avant, quelle sera leur vie après. Je ne sais pas comment on peut savoir que les centres éducatifs fermés marchent ou pas d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'études d'impact sur ce qu'ils deviennent après. Donc comment vous voulez savoir si ça marche. Dans ces centres éducatifs fermés... il y a une réforme d'aide sociale à l'enfance à faire. C'est urgent. Mais je sais pas si vous avez vu, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui était en cours sur la protection de l'enfance. Vous avez vu les images du nombre de députés qui ont assisté
Ah
à...
oui, il y avait personne.
Nobody. C'est Lies Loufoque, là, qui...
Qui a couvert ça
parce que lui, c'est un enfant placé. Il a écrit un livre qui s'appelle Enfant de personne. Et il a rassemblé des tas d'enfants placés d'adolescents à 70 ans, je crois. Anciens enfants placés pour venir témoigner à cette commission. Et puis, il a dit, et voilà le résultat, il y avait ça n'intéresse personne, alors que je signale juste que ces gosses sont tout simplement l'avenir de toute notre société. Hein. Ça n'intéresse personne. C'est vraiment débile. Dans les centres éducatifs fermés, on peut rencontrer des trucs qui se passent extraordinaires. Il y a des centres extraordinaires. Et d'autres, où au contraire, c'est épouvantable. Mais en tout cas, il n'y a pas assez d'enseignement, ça c'est sûr. Ils ont 5 à 6 fois moins d'heures d'enseignement que leurs copains dehors, ce qui est quand même un comble, alors qu'on devrait essayer de rattraper. Et puis, il n'y a pas assez d'éducateurs. Et surtout, là, j'ai eu une conversation très longue avec les directeurs de ces centres il y a 2 jours. Un autre groupe. Et qui me disaient qu'ils atteignent maintenant 30, 40 et parfois plus d'enfants souffrant de troubles psychiques ou cognitifs. Alors, souffrant de troubles cognitifs, je crois que c'est une façon polie de dire... un peu en dessous, avec des QI un peu inférieurs à la moyenne, je pense, hein. Trouble cognitif. Trouble psychique sévère, c'est que la psychiatrie ne les a pas repérés. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que ces enfants-là font dans des centres pareils? Alors, pour délinquants, je vous le dis, ils font que les juges des enfants n'ont pas trouvé d'autres structures pour les placer. Parce que les maisons à caractère social, toutes les structures qui devraient exister pour ces enfants-là, de même qu'on trouve des enfants autistes dans les services de psychiatrie fermés, ils n'ont rien à faire là. On trouve des gamins fous dans les centres éducatifs fermés. Moi, j'ai vu dans un centre éducatif fermé un gamin de 17 ans qui avait une totote. Une sucette, là, je sais pas, un truc horrible qu'on met dans les pauvres bébés. Quoi. Il avait un doudou et il passait sa vie collé à l'éducateur parce qu'il avait peur des autres. Et j'aurais pas cru ça possible, mais je m'étais dit, pourvu que cet enfant, il reste plus longtemps que le temps prévu dans ce centre où ils étaient vraiment gentils avec lui. Et ben cet enfant-là, il dormait dans la voiture de ses parents avec ses parents. Il allait plus depuis belle lurette à l'école. Personne ne s'était soucié de cet enfant jusqu'à ce qu'il fasse, je sais pas, même pas quel délit il a commis, j'ai pas demandé, et qu'il atterrisse dans un centre éducatif fermé. C'est du délaissement pur et simple, faut pas nous raconter. Il y a un maillage social, un flicage social parfois même, exagéré, et parfois pas du tout. Je comprends pas.
Je veux tout, toi et les autres aussi. Aux quatre coins de ma vie, sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue, sur mes sentiments illimités. Je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Le vide, je vais le remplir de bons ou de mauvais souvenirs. Le vide, je veux le remplir avant que mon âme s'assèche et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Alors moi non plus, hein, tout comme Dominique Simoneau, je comprends pas comment on peut faire ça à des gamins. Je ne sais pas si on peut comprendre d'ailleurs ces situations, mais elles existent et elles n'émeuvent pas tant que ça, hein, sinon ben, on ferait changer les choses. Alors dénoncer ces situations indignes, eh bien il faut continuer à le faire. Et d'ailleurs tout le monde peut faire appel à la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Tous les gens enfermés, mais aussi toutes les personnes qui sont à leur contact. Tous les gens qui sont témoins de situations anormales, illégales. Toute situation en fait pour laquelle on estime que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté ne sont pas respectés.
Tout à fait. Ben là, j'ai signé des tas de lettres de gens qui nous écrivent pour nous dire, voilà, j'ai subi ci, j'ai subi ça, il y a ça qui va pas. Alors, quand on peut, on répond, quand on peut dénoncer la situation, on le fait. On ne fait pas de la médiation, nous. Hein. Mais, je sais pas, quelqu'un qui nous dit qu'il a si tel et tel trouble et qu'il est en prison, qu'il n'est pas soigné, on écrit au service médical et au directeur de la prison. On demande qu'est-ce qui se passe. Enfin, on demande certains détails, puis on dit, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Où on peut... puis, quand on reçoit pas mal de lettres venant d'un endroit... qu'ils soient en psy ou en CRA, c'est très rare. Les centres éducatifs fermés, c'est les professionnels qui nous écrivent. Les prisons et les hôpitaux psy, c'est beaucoup de patients, de détenus et beaucoup de proches. et beaucoup de professionnels aussi. Bon, et ben quand on a beaucoup de lettres qui arrivent d'un endroit, on se dit là ça va pas, on y va. Et tous les mois, il y a 5 équipes qui partent pour visiter 5 lieux, voire parfois un peu plus, parce que comme ils partent 15 jours, chaque équipe, les équipes partent 15 jours, parfois, quand les lieux sont pas trop énormes à contrôler, on peut en voir 2 en 15 jours. Et on n'annonce pas nos visites, si c'est ça que vous alliez me demander.
Non, mais c'est bien aussi de le préciser.
Oui, sauf dans certains hôpitaux où c'est tellement catastrophique que leur situation est telle que l'équipe, le chef de mission, je demande toujours de discuter d'abord, qu'il m'explique pourquoi il faut prévenir. La règle, c'est de ne pas prévenir. Voilà. De toute façon, c'est ma décision. Je dis, voilà, il faut aller là. Avec... Bon, et puis des collègues ici qui me disent, tu sais, on devrait aller là. Et puis voilà, j'ai une liste de lieux.
Alors bien sûr, pour que les gens saisissent le contrôle général, il faut les informer de leurs droits. Donc dans les couloirs des prisons ou des hôpitaux psychiatriques, normalement c'est affiché. Quand ce n'est pas le cas et quand il y a un contrôle, eh bien une demande est faite pour que ce soit affiché. Et en général d'ailleurs, après cet affichage, le contrôle général reçoit un peu plus de courriers. Voilà. Alors il reste maintenant un peu plus de 2 ans à la contrôle générale des lieux de privation de liberté pour agir. Et je lui ai demandé ce qu'elle attend, ce qu'elle aimerait voir arriver avant de laisser sa place.
Un grand plan pour la psychiatrie. De recrutement, de rendre ce métier plus attractif. Et surtout, vider les prisons. Des gens qui n'ont rien à y faire, parmi lesquels 35% de personnes atteintes de troubles psychiques graves en prison.
Pour essayer de faire basculer les politiques, de les convaincre, eh bien, il y a notamment un moment important, en juin en général, c'est donc la remise du rapport annuel. Sauf que cette année, en 2024, avec tous les rebondissements politiques en France, je pense que même au Québec ça ne vous a pas échappé, eh bien le rapport est disponible, il a été publié, mais évidemment il n'a pas eu l'écho escompté. Il n'a pas non plus été présenté à l'Assemblée nationale. Dominique Simoneau a pu le présenter à quelques parlementaires, mais qui ont peut-être changé ensuite, ou pas.
Quand je vous disais tout à l'heure que la politique mourrait ou meurt de ses mensonges, ben si vous avez lu le rapport annuel, vous avez vu que je commence sur un discours d'Emmanuel Macron devant le cercueil de Robert Badinter, lui jurant fidélité à sa mémoire et à ses idées. Et ajoutant, Robert Badinter pensait profondément qu'un homme doit sortir meilleur de prison, fût-il coupable. Je me suis dit, non mais ça va pas, non. Mais c'est comique. Donc comme France Inter m'avait invité tout de suite après pour me demander ce que je pensais de ça, j'ai dit, ben, alors là, je peux vous dire que oui, j'en pense pas mal. L'année dernière, j'avais amené des photos... des cellules allemandes et des cellules françaises. Je dis, allez, faites le quiz. Française, allemande. Et ça l'a fait réagir. Il m'a demandé de garder les photos. Oui, aucun être humain peut regarder ça sereinement. C'est effarant, la différence. Je pense malheureusement que les gens de pouvoir sont entourés de gens qui leur disent pas tout, qui leur disent oui, je m'en occupe, qui leur disent oui, je fais le nécessaire, oui, tu vas voir, ça va s'arranger, et ben voilà. Mais il y a un truc qui est inaudible, je le sais, c'est les centres de rétention, où la vie est épouvantable. Parce qu'on met les gens dans des zones de vie, les étrangers dans des zones de vie, dans lesquelles les gardes, qui sont des policiers, donc c'est absolument pas le métier, qui sont là pour le maintien de l'ordre, les policiers pas pour garder des gens, c'est pas leur boulot. Ils n'osent pas rentrer, de la violence règne là-dedans. Je vois pas pourquoi on enferme les gens. Pourquoi ? Alors dans ce cas-là, si on va jusqu'au bout de la logique, on va en prison, on repère qui a des OQTF, et puis on prépare les départs dès la sortie de prison. Pourquoi passer par le SAS? Or, je le sais pourquoi.
Ben, moi, je le sais pas.
Ça. Ben, parce que les pays d'origine ne les reprennent pas. Donc, j'imagine. parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Ou alors, les préfectures font pas leur boulot. Ça coûte 700 euros au jour par retenue, l'ICRA. Calcul de la Cour des comptes. Ah, ça coûte extrêmement cher. Je pense que le but affiché, c'est que ces gens-là ne sortent pas. À savoir, ils sont en prison. Ils ont une OQTF à la sortie. Donc, ils vont en centre de rétention. Ils peuvent y rester 90 jours. Au bout de 60 jours, en général, les juges libèrent. Ce qu'ils disent, c'est que si vous n'avez pas réussi à le... 60 jours multiplié par 700 euros, hein, par jour. Si vous n'avez pas réussi à le renvoyer jusque-là, vous ne réussirez pas en 30 jours. Libérez-moi ce monsieur. Ils sont libérés. Ils sont libérés sans rien. Ils retournent à leurs conditions. À leurs conditions, c'est-à-dire tenir le mur. Faire des petits trafics, voler un peu. Et ben, ils retournent en prison. Et les surveillants, ils appellent ça les portes tournantes. Et c'est moi la première fois que je l'ai vu, c'était à 3 ans à Toulouse 6, où il y avait un volant de 500 étrangers qui tournait, puis il y avait la même chose à Perpignan, même chose à Nanterre, même chose un peu partout, au Baumettes. Et qui coûte, comme dirait notre président, un pognon de dingue, mais pour rien. J'aimerais tellement que nos élus tiennent des discours véritables, responsables, pragmatiques devant la catastrophe, les catastrophes que sont la psychiatrie, la prison, l'aide sociale à l'enfance. Parce que je m'autorise à parler de l'aide sociale à l'enfance parce que, comme je vous l'ai dit, je les retrouve en prison, je les retrouve, voilà, c'est les mêmes. Donc c'est bien quelque chose d'un pas marché. Et c'est pas du tout, je suis pas du tout naïve, hein, mais je sais que si on ne donne pas aux gens le goût de quelque chose, si on ne donne pas le goût de vivre, au fond, d'autre chose que de conneries, franchement, on passe à côté d'un truc énorme. Et moi, la société, je l'aime pas clivée, je l'aime ensemble. Et pour moi, un détenu, il vaut pas moins que n'importe qui, que tout le monde. Surtout vu les... En plus, j'ai des conversations... j'en ai toujours eu, hein, dans l'enfance. Dans ma jeunesse, quand mon premier boulot. Mes premiers boulots, c'était éducatrice à la pénitentiaire. On avait des longues conversations avec les gars. J'aimais bien. Ça continue dans les cellules, maintenant. Ça m'apprend beaucoup de choses.
Ouh là là, l'heure tourne. Et vous le savez, je ne peux pas quitter une invitée sans lui demander son avis sur ses poils.
Oui, c'est vrai qu'on a toujours quelque chose à dire de ses poils. Parce que, disons que moi, j'ai eu plusieurs phases. Quand j'étais jeune, adolescente, c'était le MLF, le féminisme. Donc je laissais pousser tous mes poils. Et fuck le reste. Après, je me suis dit, quand même, ça... C'est pas ravissant. Donc j'ai fait comme d'autres. J'ai épilé mes poils des jambes et sous les bras aussi, parce que ça me gêne. Je trouve que c'est la transpiration, c'est l'odeur de transpiration qui me gêne. Comme nous, les femmes, on a toujours eu pour habitude de s'épiler tout. Je me suis dit, je réépile, voilà. Et maintenant que j'ai vieilli, j'ai plus de poils aux jambes. J'ai pratiquement pas de poils aux jambes. Et même pour... Enfin, je m'en fiche complètement. Voilà, c'est complètement égal.
Rien à voir avec les poils, mais tout à voir avec les lieux de privation de liberté. Dominique Simoneau a encore un petit truc à nous dire avant de nous quitter.
Oh, je vous conseille un film. C'est Thea Chappie. C'est le film de J.R., l'artiste. C'est dans une prison haute sécurité de Floride. C'est sorti le 12 juin. Je vous jure, c'est époustouflant. Il a fait faire un projet à ses prisonniers qui sont dans des prisons max sécurité.
Voilà, et n'oublions pas qu'en France, peut-être ailleurs aussi, hein, le contexte général tend plutôt vers une restriction des libertés fondamentales. Cessons donc de croire que les conditions de détention indignes ne concernent que les autres, que les traitements dégradants, c'est pas pour nous, que les atteintes à l'intégrité physique et à l'intimité, oh, ça ne nous regarde pas. Bien au contraire, cela devrait nous indigner et nous faire agir, parce que veiller au traitement humain et respectueux des personnes privées de liberté, eh bien, c'est affirmer notre humanité. Allez, du poil sous les bras, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel entretien qui nous apprendra des choses qu'on n'avait pas pensé qu'on aurait envie de savoir. Mais voilà, c'est ça, du poil sous les bras, c'est s'intéresser par surprise. Et si vous êtes en manque d'ici là, eh bien vous pouvez retrouver les autres épisodes en podcast. Du poil sous les bras, c'est facile à retenir, ça s'oublie pas.